Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Je dois dire tout de suite que nous n'avons jamais, nous ne devons pas, malgré les circonstances actuelles, nous ne devons pas oublier que cette année 2020, c'est sous le regard du Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, que nous travaillons. Et en la circonstance, je n'oublierai jamais que le salut est offert gratuitement à tous. Ce matin, ce midi, la portion de la parole que je vais lire pour vous se trouve dans Philippiens, Philippiens le chapitre 3. Je vous donne le temps de trouver Philippiens chapitre 3. Et ce chapitre, évidemment, que Paul a écrit, a pour titre « La connaissance de Christ ». Alors, je lis pour vous. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, le chapitre 4, verset 1er, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, que le Seigneur bénisse cette portion de sa parole pour l'avancement de son règne et surtout pour sa gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, quand Paul a écrit ce livre aux Philippiens, il était déjà en prison. Il était en prison parce que il avait choisi pour sa grande bénédiction et surtout pour accomplir son ministère que Jésus-Christ venait de lui confier. Il était en prison et il avait décidé d'écrire ce chapitre, ce livre aux Philippiens sous plusieurs facettes. Mais aujourd'hui, ce qui surtout attire notre attention, c'est que il voulait recommander désespérément le bonheur. Et c'est pour ça que ce chapitre a pour titre « La joie dans la foi ». La joie dans la foi. Depuis le verset 1er du chapitre 3 jusqu'au verset 1er du chapitre 4. Il dit que les chrétiens doivent se réjouir en toutes circonstances, même lorsqu'ils affrontent une situation difficile. Même quand ils auraient envie de se plaindre ou que tout le monde est maussade, Christ règne toujours et nous le connaissons. Aussi, nous pouvons nous réjouir en tout temps. Écoutez, avec la pandémie, avec même la crainte d'une deuxième vague, car on parle déjà d'une deuxième vague à venir, cela peut être vrai puisque nous savons qu'en Chine, il y a une recrudescence évidente de cette pandémie de coronavirus. Avec la lutte de pouvoir, avec le tiraillement entre les différents pays du monde, avec la domination et l'hégémonie, l'égoïsme et l'égocentrisme, avec la liberté et le libertinage, avec les sociétés qui s'entre-déchirent, avec les luttes de classe, de caste, de couleur, vous en savez tous quelque chose, avec le pouvoir et l'argent, semble-t-il que l'un ne va pas sans l'autre, avec le feu et les incendies, les inondations, les tsunamis incontrôlables, avec le changement climatique, avec l'évolution trépidante et tragique de la technologie, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que quelque chose ne va pas bien dans le monde. quelque chose ne va pas bien non plus chez les créations de Dieu. Quelque chose ne va pas bien non plus en nous. Si vous remarquez bien, quelque chose de terrible, de déplorable est en train de s'afficher sur la planète Terre. La souffrance, l'injustice, aveugle, cruelle, absurde, monstrueuse et totalement incontrôlable se sont déjà installées. Le malheur frappe ceux-là qui s'efforcent de faire le bien, alors que la réussite sourit à ceux qui se complaisent dans le mal, frères et sœurs. Les forces rebelles de Satan, les esprits déchus. L'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. Eh bien, tout ça nous fait prendre des décisions qui nuisent à nous comme aux autres. Et tout cela à cause de quoi? À cause de notre indiscipline, à cause de notre refus de connaître, de faire la connaissance de Jésus-Christ. Et cela est vrai, puisque nous ne faisons pas preuve d'humilité. Nous ne développons pas l'instinct du sacrifice personnel. Nous n'avons pas d'unité. Nous ne vivons pas une vie chrétienne satisfaisante. Nous n'arrivons pas à jouir d'une joie sereine et d'une paix profonde. Ici-bas, dans ce monde, la joie contraste avec le bonheur. La joie, c'est une chose, le bonheur, c'est une autre. Alors qu'en réalité, la joie et le bonheur, quand Jésus-Christ est là, la joie et le bonheur doivent se confondre, doivent se mêler l'un à l'autre pour que vraiment ça paraisse dans notre vie chrétienne comme dans notre vie terrestre, notre vie familiale. Quand nous lisons l'apôtre Paul aux Philippiens, que vous venez de parcourir avec moi, nous constatons que la Bible, c'est le rempart de l'homme, du point de vue moral, du point de vue théologique, du point de vue humain, tout court. La Bible nous donne, nous indique même les corrections qui s'imposent, tant dans notre manière de penser que dans notre manière d'agir. Les références sont là. Le psaume 32, Habacuc 3:18, Philippiens 2:18, 4:4, 1 Thessaloniciens 5:16. Bien sûr que je n'ai pas le temps de vous lire tout cela, mais nous constatons que dans l'Ancien Testament, les judaïsants, et c'est là que quand Paul dit, l'apôtre Paul dit les chiens, c'est les judaïsants qui croyaient que pour être sauvés, les non-juifs devaient se conformer aux lois. Et il y en avait une loi qui était pertinente, c'était la circoncision. Mais nous savons aujourd'hui que la circoncision ne sert à rien pour le salut. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, donc la circoncision non plus. Le salut, c'est un don gratuit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Bien sûr, les humains incrédules, les non-croyants, continue de s'appuyer sur l'effort humain plutôt que sur la foi. Mais notre Dieu ne regarde-t-il pas à l'attitude du cœur plutôt qu'aux œuvres? La valeur spirituelle de quelqu'un n'est pas en relation avec ses succès ou ses activités. Les performances extraordinaires de l'homme, mais ça ne lui vaudra jamais ni le salut, ni la vie éternelle. Remarquez bien que Saint Paul était un homme très avantagé sur le plan humain. Éducation, nationalité, famille, héritage, orthodoxie, activité, moralité, tout était au rendez-vous pour l'apôtre Paul, que nous pouvons lire nous-mêmes dans 2 Corinthiens 11, tout comme dans Galates 1, les versets 13 à 24. Mais sa conversion, acte 9, ne repose seulement que sur la grâce de Dieu. S'il vous plaît, c'est la fête des pères. Ne nous reposons pas sur la foi de nos parents, notre appartenance à l'Église ou sur notre bonté. Le salut n'est accordé seulement que par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ. Paul a persécuté l'Église, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de l'élite religieuse. Il pensait même que le christianisme était hérétique, blasphématoire, que Jésus n'avait pas l'image du Messie. Il allait même jusqu'à dire que l'enseignement de Jésus était faux et pernicieux. Pour lui, Paul, le christianisme représentait une menace politique qui entravait en quelque sorte les relations entre les Juifs et Rome, ce que nous retrouvons effectivement dans Acte 8, le verset 3, 22, verset 4, 26, verset 9 à 11, Galates, du verset 1 au verset 13. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après que Paul eut évalué tout ce qui s'était passé dans sa vie, il nous a dit plus loin qu'il considère tout cela comme une perte devant le privilège de connaître Christ. La relation, frères et sœurs, avec Jésus est plus importante que tout le reste. Le but suprême et utile, c'est de connaître Christ. Et finalement, comment connaître Christ? Il faut étudier les évangiles, c'est certain, pour pouvoir savoir comment Christ a vécu, comment il a réagi, Matthieu 11, 29. Il faut aussi étudier les autres passages de l'évangile qui le concernent, comme dans Colossiens 1, verset 15, jusqu'au verset, au chapitre 2, verset 15, comme dans Jean 17, verset 3, comme dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 13, comme dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Nous devons apprendre à connaître mieux notre Sauveur, en laissant le Saint-Esprit nous rappeler ses paroles quand nous prions et quand nous l'adorons. Jean 14, verset 26. Et surtout, nous devons prendre très au sérieux sa mission, ses souffrances, depuis Matthieu 28, 19, Philippiens chapitre 3, verset 10, Ce sont des moyens qui sont là pour nous permettre de changer notre manière de penser et notre style de vie. C'est pour ça que les études bibliques ont leur place dans notre union avec Christ. L'apôtre Paul avait tout abandonné afin de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Dieu soit béni, cela nous est aussi accessible, à la condition que nous acceptons de faire des sacrifices. Frères et sœurs, la vie chrétienne est pleine de rebonds, est pleine de douleurs, est pleine de sacrifices, est pleine d'acceptation. La connaissance de Christ est plus importante que toute autre chose. Oui, plus importante que toute autre chose. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais Christ est éternel. Christ échange sa parfaite justice contre nos péchés et contre nos imperfections. 2 Corinthiens 5, 21. Romains 6, 5, 8, 17. Et j'en passe. Frères et sœurs, nous devons devenir un avec Christ par la foi, en comprenant la puissance de sa résurrection et en abordant une nouvelle vie. Si nous nous rangeons dans ce genre de concept, c'est-à-dire être un avec Christ, par la foi, comprendre la puissance de sa résurrection, aborder une nouvelle vie, l'esclavage du péché s'effritera tranquillement. Notre vieille nature aussi disparaîtra. Romains 6, 5, 8, 17, Galates 6, 17. Nous constatons qu'après sa résurrection, Christ a été élevé au ciel. Et je crois personnellement qu'un jour, nous aussi, nous participerons à sa gloire. Apocalypse 22, 1 à 7. Voilà pourquoi la vie chrétienne nécessite une certaine préparation. Accepter de suivre Christ comporte des règles formulées par la parole de Dieu, de Timothée, les versets 2 à 5. Il nous faut garder les yeux sur Christ constamment et ne pas se laisser ralentir ou détourner par les convoitises de la chair, frères et sœurs. Toute notre énergie doit y passer, c'est-à-dire oublier le passé. Marcher vers le but, car Christ nous promet l'éternité avec lui. À mesure que notre foi augmente, notre chrétienté évolue avec la grâce et l'amour de Dieu. 1 Timothée 4, les versets 7 à 10. Je le sais maintenant. Je suis placé pour le savoir. La vie chrétienne est un combat quotidien. La vie chrétienne est un combat quotidien. Non seulement contre les forces de l'extérieur, mais aussi contre les tentations de l'intérieur. C'est peut-être la façon de remporter la couronne, finalement. Paul a oublié complètement le passé. N'oublions pas, Paul, c'est lui qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, le premier martyr chrétien. Ce qui veut dire qu'entre ce que nous avons fait de mal et ce que nous sommes devenus, il existe une tension que Dieu seul peut apaiser, frères et sœurs. Nous pourrons grandir dans la connaissance divine et sur notre relation avec lui. Espérance, foi, obéissance pour une maturité spirituelle certaine. Sans épuisement et découragement, ce sera le but de la perfection. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, nous pourrons mettre en pratique tout ce que nous avons appris pour pouvoir jouir de la liberté en Christ et devenir une meilleure personne possible, un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne possible. Nous pouvons le constater dans le psaume 119 au verset 136, dans Luc 14 au verset 27, tout comme dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, ou dans 1 Pierre 5, le verset 3. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si jamais vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Verset 3, chapitre 3 que nous avons lu, les versets 15 et 16. Frères et sœurs, avant de terminer, j'ai compris une chose, c'est que le but de la vie chrétienne est de ressembler à Christ. Ne penser qu'à soi-même et à la vie terrestre seulement est une véritable perte. Gagner de l'argent sans jamais prendre un temps d'arrêt pour Dieu, qui est le souverain maître de toutes choses, ne nous conduira qu'à l'échec. Nous voulons être des citoyens du ciel. Et nous voulons promouvoir les intérêts du royaume des cieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui oublient qu'ils sont appelés à être citoyens du ciel et qui restent encore sensiblement attachés au plaisir et au bien terrestre. Mais je crois que la joie la plus grande est la présence de Christ en nous. Celui qui vit en nous accomplira son objectif final pour nous. Ainsi donc, nous devons garder nos yeux sur Christ. Nous rappeler que ce monde n'est pas notre demeure et que Christ prendra le contrôle de tout. Ne nous décourageons pas avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Philippiens, le chapitre 3, les versets 8 à 10 que nous venons de lire. Le plus grand désir de saint Paul était de connaître Christ quand il s'est exclamé, et je lis pour vous, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela, attention, hein, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, dit-il, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec tous, la grâce de Dieu soit avec nous tous. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour vous avant le retour de notre divin Sauveur. Bonne fête des Pères, bon après-midi et bel été. Que le Seigneur nous bénisse.